Je vais vous présenter un livre de Eugene Facker intitulé Infinite Resignation on Pessimism, ce qui se traduit en français par Une résignation infinie sur le pessimisme. Il s'agit d'une collection d'observations sur le pessimisme qui ne suivent pas vraiment le cours d'une argumentation ayant pour but d'arriver à une conclusion, mais plutôt une suite d'aphorismes, c'est-à-dire de courtes observations qui prétextent une vérité générale, ou du moins quelque chose de significatif. Sans pour autant qu'il s'agisse d'une vérité qui aille de soi, comme un axiome, et sans non plus avoir la rigueur de la démonstration d'un théorème. Il y reprend et commente souvent des citations d'essais de grands philosophes, notamment germaniques tels que Schopenhauer, Nietzsche ou Kant, mais aussi de philosophes français comme Pascal ou Descartes. J'ai donc choisi certains de ces aphorismes et essayé de les regrouper par thème pour vous les proposer dans cette présentation. Je m'excuse d'ailleurs d'avance si j'ai fait des erreurs lors de ma traduction vers le français. Le pessimisme est généralement considéré comme celui qui se plaint, toujours en train de pointer ce qui ne va pas dans le monde sans non plus donner de solution. Ou alors comme celui qui pense que tout effort est condamné à l'échec, que tout projet est condamné à l'inachèvement, ou que toute vie est condamnée à être vaine. Cette notion de destin tragique, doom en anglais, est marquée par sa temporalité. Toute chose est éphémère et portée vers sa fin, mais surtout toute chose y est vouée à l'échec. En opposition, la morosité, gloom en anglais, qui caractérise aussi le pessimisme en représentant son atmosphère assombrie et désintéressée, est elle une austérité qui réside dans l'intemporalité. Toute chose triste, statique et suspendue dans le temps. Gloom and doom regroupent ainsi respectivement l'absurdité et la fatalité, que la philosophie pessimiste attache à l'existence humaine. Par ailleurs, le pessimisme est considéré dans l'opinion commune comme l'opposé de l'optimisme, le pire contre le meilleur, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. L'auteur tente ainsi de mieux définir le pessimisme et nous donne trois définitions qu'apporterait un dictionnaire de philosophie. Premièrement, l'opinion que nous sommes dans le pire de tous les mondes possibles, ou alors l'opinion que la vie ne vaut pas d'être vécue, ou encore que l'opinion que la non-existence est préférable à l'existence. Mais il donne ensuite sa propre définition qu'elle trouve mieux refléter le pessimisme. Je vois le verre à moitié plein, mais de poison. Il y a une certaine intolérance et mépris dans le pessimisme, qui proviennent de confrontations banales de la société, de la claustrophobie de devoir incessamment observer le monde qui nous entoure, si différent de celui que nous espérions qu'il soit. De ne pouvoir échapper ce sentiment de nausée et de dégoût envers les autres ou encore envers nous-mêmes, donner envie au pessimisme de renoncer à la vie urbaine ou même à son espèce. Schopenhauer avait une vision particulièrement pessimiste de l'existence humaine, que celle-ci se réduit à la souffrance et qu'elle est absurde, en expliquant que le néant avant ma naissance est égal au néant qui poursuit après ma mort. Il exprime aussi explicitement que l'existence doit être une erreur. Et cela sans explication ou argumentation supplémentaire, comme s'il nous défiait d'argumenter le contraire. Il affirme ainsi que, à la fin de sa vie, personne ne souhaiterait honnêtement la revivre. L'homme est un être vivant qui se préoccupe de comprendre le monde pour oublier sa douleur. Le pessimiste a lui abandonné et se retrouve piégé avec sa pensée qui lui est irritante et fatigante. C'est donc une formule classique du pessimisme que de dire qu'il est préférable de ne pas exister. Car en effet, la non-existence ne peut faire souffrir. C'est seulement ironique que seul le vivant puisse arriver à cette réalisation et rêver de ne pas l'être. Pour le pessimiste, l'échec n'est qu'une question de quand, pas de si. La vie d'une personne se transforme ainsi en un déclin mélodramatique et son échec devient une fatalité. C'est le sentiment d'avoir atteint un stade ultime, aussi mauvais qu'il puisse paraître, qui ne peut être autrement. Le sentiment de ne pas être capable de changer en une personne différente. Que même s'il nous restait assez de temps et de foi pour changer notre personne, alors on ne désirerait pas le faire. Et que même si on le souhaitait, on ne pourrait toujours pas changer, car il n'y a en fait peut-être rien en quoi nous transformer. C'est donc un sentiment qui se retrouve entre la résignation et une forme de tranquillité, d'avoir accepté la fatalité de l'existence humaine, mais aussi sa futilité, y compris celle de mourir. Il reste ainsi une interminable chorégraphie de gestuelle, en attente de la mort, avec la terreur qu'il y ait quelque chose après celle-ci. Et cela, si ce n'était pas déjà la seule réelle occupation de l'homme, mourir, un petit peu chaque jour, avec l'incapacité de différencier le temps qui passe du temps perdu. Ce raisonnement du pessimisme dans la résignation peut aussi nous amener à nous demander qu'est-ce qui est le plus marquant entre ne jamais avoir eu d'espoir ou de le perdre progressivement. On a pour résumé de différents types de pessimisme, si je puis dire. Le pessimiste mélancolique, grincheux de tout ce qui l'entoure, qui a peur d'être heureux et se contente du malheur. Le pessimiste indigné des préoccupations humaines ou le pessimiste résigné, qui attend la mort dans l'indifférence. Mais dans tous les cas, il suppose que le pessimisme provient de la pensée et du sentiment spécifique à l'homme, qui en devient morbide par nature et qui ne peut échapper à son sort que par la mort. Sioran disait lui que le plus on vit, le plus il semble inutile d'avoir vécu. Malgré leurs différentes approches, tous ces écrits de grands philosophes que l'auteur reprend s'accordent sur le statut contestable du pessimisme au sein de l'histoire de la philosophie. Ces grands philosophes n'ont d'ailleurs jamais achevé leurs travaux sur le pessimisme, dû au fait que sa psychologie s'y révèle en réalité assez erronée. Ce sur quoi je choisis de terminer ma présentation. Merci de m'avoir écouté.